Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pendant 30 minutes pour discuter de l'actualité locale. Et ce soir, c'est Clémence qui vous propose un retour vers le passé d'Angers au travers de la photographie puisqu'elle s'est entretenue avec Frédéric Nibard. Auteur local prolifique, il arpente les archives et en a exhumé 210 illustrations dans son livre auto-édité « Angers et la photographie ». Et je vous propose de découvrir ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Frédéric Nibard, vous vivez à Angers, ingénieur télécommunication à la retraite, vous n'avez pas fini de vous occuper. Angers et la photographie, c'est le 25e ouvrage que vous sortez, 200 pages, 210 illustrations et un sacré travail de recherche derrière. On va refaire un point, la photographie est née en France, avec Louis Daguerre qui a déposé un brevet pour l'ancêtre de l'appareil photo qu'on appelle le daguerréotype en 1839, en sachant qu'auparavant, il a travaillé avec Nicéphore Niépce, un autre inventeur, qui a passé 2 années à Angers. C'est à partir de là que vous débutez le lien entre notre ville et la photo. Qui était Nicéphore Niépce et qu'est-ce qu'il a fait ?
Ah ben, Nicéphore Niépce, donc, c'était un monsieur qui était né en Saône-et-Loire. Il était d'une famille assez aisée, il avait plusieurs frères et sœurs, et c'était un être qui était très curieux de tout un tas de choses. Alors, il a été élevé chez les oratoriens, ça vous dit quelque chose?
Pas du tout.
Non, bah c'était en fait des prêtres de l'époque. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y avait un collège de l'oratorien à Angers, et c'est pour ça qu'il a été, quand il a eu 21 ans, qu'il est arrivé comme professeur. Il a été professeur de 1 an, et il amusait tellement les élèves avec des lanternes magiques que ça énervait les curés, et puis donc ils l'ont rétrogradé surveillant de pension, et là ça lui a pas plu, donc la deuxième année il a quitté Angers, son frère est resté à Angers, il est tombé amoureux d'une angevine d'ailleurs, il est resté plusieurs années, mais lui il est reparti dans sa ville natale, et comme il était passionné, puis qu'il avait un petit peu d'argent quand même pour faire des recherches, il a mis au point un moteur. Faut savoir qu'à l'époque, là on est en 1790, donc juste après la Révolution française, les moteurs électriques n'existent pas, ni les moteurs thermiques, il y a uniquement quelques petites machines à vapeur. Et il mettra au point un moteur. Le prototype aujourd'hui est visible au Musée des Arts et Métiers de Paris. C'est absolument exceptionnel. C'est l'ancêtre, en fait, du moteur à explosion. C'est pas connu du tout. Ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à le commercialiser parce qu'il était beaucoup trop en avance sur son temps. Comme ça arrive dans beaucoup de personnes dont je m'intéresse, dont je fais les biographies, et qui sont tombées dans l'oubli. Lui, par contre, il n'est pas tombé dans l'oubli parce qu'il était passionné par la reproduction de la photo, un peu comme avec ses lanternes magiques, quand il projetait sur les murs à ses jeunes élèves des photos. Il pensait que c'était possible, ces photos, de les mettre sur un support.
Et, oui, de les figer, justement.
Oui, de les fixer, quoi. Et donc, il a travaillé pendant une quinzaine d'années sur un procédé qui finalement a abouti, parce qu'il a fait il y a quelques photographies dont on est certain de l'existence. Il fallait près de 20 heures de pause pour faire une photo, mais c'était vraiment pas un procédé scientifique. Voilà. Donc c'est Louis Daguerre qui a travaillé avec lui, qui à la mort de Nicéphore Niépce a repris ses travaux et qui a réussi à mettre au point un procédé qu'il a pu exploiter commercialement.
Et donc c'est le daguerréotype. On peut revenir sur cette invention ?
Oui, alors c'est un petit peu de technique, mais pas trop, juste un petit peu.
Un soupçon de technique.
Soupçon de technique, le daguerréotype, c'est une plaque de cuivre qui est recouverte d'une légère couche d'argent, de l'argent pur, et sur lequel on va déposer en fait une substance à base d'iode qui va se géléifier. Et c'est ça, quand on va le mettre dans la chambre noire. La chambre noire, c'est tout simplement une grosse boîte avec une petite ouverture et une lentille, en fait. Hein. La lentille capte les rayons du soleil et ce que reflètent les objets, traverse la lentille et vient se fixer sur cette fameuse plaque. D'ailleurs, on appelle ça une plaque daguerrienne. Et après, il suffit de la dévoiler pour faire apparaître l'image.
Maintenant, on est plutôt passé au négatif.
Oui.
C'est le procédé qui a été inventé plus tard et qu'on a repris, qu'on utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez trouvé une des premières prises de vue de la ville. Elle date de 1847.
Oui, alors j'ai même trouvé plus ancien par la suite. Celle de 1847, ça a été un plaisir immense parce que j'ai trouvé... alors c'est un daguerréotype aussi, sur une, plaque une photo sur plaque d'argent.
Dans la collection des Pays-Bas.
La collection des Pays-Bas. C'était un collectionneur très riche qui s'est mis à parcourir la France parce qu'on a été précurseurs dans ce domaine et qui avait ramassé une collection de plus de 6000 photographies. Et parmi les 6000 photos, il n'en avait que 40 daguerréotypes. Ça vous montre la rareté aujourd'hui de ces images. Et quand je les ai regardées une par une sur Internet, j'ai eu la surprise de voir apparaître le château d'Angers, avec la Maine et les petits bateaux.
C'est le quai de Ligny, avec le château derrière.
Alors évidemment, quand le directeur des archives municipales, Sylvain Bertoldi, a vu ça, il a levé les mains au ciel en disant « mais c'est extraordinaire, c'est formidable ». D'ailleurs, il a réussi à la dater de 1847, parce que sur la photo, on voit un immeuble en construction. Et en regardant le cadastre, il a réussi à trouver l'année. Donc c'était fabuleux. Monsieur le maire était aussi content. Ils ont d'ailleurs commandé une reproduction à très haute résolution pour que la ville d'Angers possède cette photographie.
Oui, une reproduction numérique.
Une reproduction numérique, voilà. Et ensuite, j'ai retrouvé deux photographies, parce que j'ai retrouvé la trace d'un amateur que j'ai appelé éclairé, qui s'appelait Paul-Michel Lessard, qui était né à côté de Jarzé. Et qui a acheté un matériel dès le début, dès 1840.
Parce qu'il y a eu toute une folie, en fait, à partir du moment où le daguerréotype est apparu.
Voilà, c'était les amateurs, je les appelle éclairés, parce que c'est des gens qui, tout de suite, ont cru en cette invention, si vous voulez, et avaient assez d'argent quand même pour acheter le matériel. Le matériel coûtait à peu près 8 mois de salaire d'un ouvrier. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Hein. Bon. Et donc, ce monsieur-là a commencé à faire des photographies de sa famille, et puis je me suis dit, il a forcément... fait des photos d'Angers, quoi, c'est pas possible. Et j'ai réussi à découvrir qu'en fait, sa famille, dans les années 1960, avait vendu à la société Kodak une grosse partie de la collection de daguerréotypes qu'il avait fait. Et par la suite, j'ai trouvé que cette société Kodak avait été en difficulté. Et grâce à François Mitterrand, qui avait créé une loi pour permettre aux entreprises en difficulté qui n'arrivaient plus à payer leurs impôts, il avait créé une loi qui permettait aux entreprises, avec des objets d'art, de payer, d'acquitter leurs impôts. Et la société Kodak a donné tout son fonds de photographie à la France, qui aujourd'hui l'a déposé au musée d'Orsay. Et donc il y avait une quinzaine de daguerréotypes de Paul-Michel Lessard. Et aux surprises, deux photos d'Angers. Voilà, donc le jardin de la préfecture et l'hôtel Bénardière, où son frère, Paul-Michel Lessard, était médecin. Donc il l'a pris de la fenêtre de sa chambre, on voit l'église. C'est fabuleux, celle-là date de 1842-1843. Donc c'est les plus vieilles photos connues à ce jour d'Angers, et qui donc sont sur des plaques de cuivre et d'argent, vous voyez. Et quasiment inaltérables, si on peut les nettoyer aujourd'hui. Mais là, moi je ne suis pas collectionneur, mais les collectionneurs, il y en a qui préfèrent nettoyer, d'autres pas. Mais si on nettoie la plaque, on la retrouve, mais alors comme si elle était neuve. Quand vous avez un visage, un monsieur avec la barbe,
c'est
vous
net.
Pouvez regarder et compter les poils de barbe. C'est fabuleux.
Donc du coup, toutes ces photos, ce ne seraient peut-être pas forcément les premières. Vous êtes encore à la recherche d'un fameux cliché qui serait celui de Pierre-Alexis Bedbeder.
Eh oui.
Et qu'est-ce qu'il en est pour l'instant?
En fait, je cherche des pistes. Parce que j'ai retrouvé exactement la date de prise de la photo. Il a pris la photo 3 mois après la présentation qu'a faite Louis Daguerre à Paris de son procédé. Donc on peut penser qu'il a tout de suite acheté un appareil et il a commencé à faire le tour des villes de France pour gagner un peu d'argent. Hein. Voilà, donc il a commencé par... Il a fait Rouen, Caen, Saint-Malo, Rennes et il est arrivé à Angers. Donc à Angers, il est resté 2-3 jours à l'hôtel, il a fait passer un article dans les journaux en disant qu'il allait à la mairie faire une expérience de daguerréotypie. Monsieur le maire a bien voulu à l'époque, il s'appelait Lachaise, c'était un monsieur qui était dans le textile, un industriel du textile. Et il y a une centaine de personnes qui ont assisté à son expérience. Il était dans la salle de la mairie, pas loin du bureau du maire, si vous voulez, et il a pris la photo en regardant vers la place Lorraine. Voilà, on a tous la description de sa prise de vue dans les journaux, ça c'est absolument fabuleux. On voit les gens émerveillés de voir apparaître cette plaque d'argent où il n'y avait rien, si vous voulez, de voir apparaître, au bout de quelques heures quand même, hein, de travail.
Oui,
et
le
tout,
temps de poser.
De voir apparaître les images, une chose qu'ils n'avaient jamais vue, c'était absolument sidérant. Hein. Et donc voilà, donc, je suis à la recherche de cette photo-là. Peut-être que je la trouverai, parce que je suis un peu comme un bulldog, quand j'ai un os, je ne le lâche pas. J'ai quelques pistes, et je fouille, voilà. Alors ça serait extraordinaire, forcément, hein, parce que là, ça serait décembre 1839, donc ça serait vraiment l'invention, quoi. Alors ce qui est amusant aussi à cette époque-là, c'est que le receveur municipal d'Angers, qui est apparemment un homme très ouvert, très curieux, écrit au maire une lettre en lui disant « Monsieur le maire, l'expérience est extraordinaire, il faudrait acheter un daguerréotype pour prendre des vues d'Angers. » Et alors le maire, il lit le courrier, et puis dans la marge, il met « Mais c'est complètement idiot, quoi, à quoi ça peut servir, franchement ?» Et donc il n'achète pas le daguerréotype, et on a loupé quelque chose, parce qu'on aurait aujourd'hui des vues phénoménales, chose qui a été faite à Nantes. On a des vues de Nantes qui datent de cette époque-là.
Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la photographie, c'est à la fois un outil de compréhension des mœurs du passé, c'est un outil de documentation, bah, justement pour l'évolution des villes. Qu'est-ce que vous avez appris sur la vie du passé à Angers au cours de vos recherches ?
Déjà, je me suis rendu compte que la photographie a eu beaucoup de mal à se développer, puisqu'en fait, dans les 10 premières années, il n'y aura pas de photographe angevin résident à Angers.
Oui, c'est seulement des photographes itinérants.
C'est ça. Ils vont passer à peu près aux fêtes de Noël chaque année. C'est souvent des Parisiens qui arrivent. Il faut savoir qu'à l'époque, on met près de 3 jours pour venir à Angers en diligence. Hein. Et puis ça coûte très cher aussi. Hein. On a tout le matériel sur le toit. Mais ça vaut le coup, parce que quand même, quand on arrive et on fait des belles photos, ça parce rapporte ça... quand même pas mal d'argent.
Oui. Et ça pèse lourd aussi.
L'appareil est fait à peu près 50 cm. C'est une grosse boîte de 50 cm à peu près de côté. Donc c'est quand même très lourd. Hein. Et le bois, c'est du pain à l'époque, les premiers appareils, mais c'est quand même assez lourd. Et donc, ils passent tous les ans, ils font des photographies pour des gens aisés. Mais à cette époque-là, on a un peu de mal à avoir des traces, parce que le temps de pose était encore de quelques minutes, et pour faire des vrais portraits, des beaux portraits, il fallait que les personnes ne bougent pas, et on ne peut pas ne pas s'y lier des yeux pendant plusieurs minutes, hein. Donc c'était un peu compliqué.
Ou ne serait-ce qu'avoir des conditions studio, si on peut appeler ça comme ça, on ne peut pas faire ça à l'extérieur, s'il y a du vent...
Alors pas de vent, parce que s'il y a du vent, tout bouge, les arbres bougent, donc ça fait flou. Puis là, ils avaient inventé une chaise avec un... pire que chez le dentiste, avec un repose-tête derrière pour fixer la tête, pour pas qu'il bouge. Alors ils étaient crispés, forcément, c'était pas très beau. Donc ça a mis longtemps à se développer. Et en fait, ça a commencé à exploser véritablement grâce à un angevin qui s'appelle Gaspard Berthaud, qui est un monsieur qui était peintre en décor. Donc lui, sa profession, c'était de peindre dans les intérieurs bourgeois du faux marbre ou du faux bois, des choses comme ça, ou des tentures.
Des trompe-l'œil un peu.
Trompe-l'œil, voilà. Il gagnait assez d'argent et puis il a voulu se lancer dans la photographie. Il a arrêté son commerce brutalement et il a installé un studio de photographe. Rue Basse-Dumaille. Et là, il a fait fortune, parce que pendant les 10 premières années, il n'a quasiment pas eu de concurrent. Il a juste eu un concurrent qui s'appelait Léon Na, qui était un Polonais d'origine, qui avait pris ce nom de... Il s'appelait Léon Napoléon, à Bradovitz. Mais à l'époque, les gens étaient très racistes. Très, 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 très racistes en France. Et il voulait cacher ses origines polonaises. Donc, il a pris le nom de Léon Na. Il avait bien le droit de vivre en France parce que son père avait été dans les lanciers polonais de Napoléon Ier sous l'Empire, et donc il avait, on peut dire qu'il avait gagné sa nationalité française, hein, ce brave homme. Donc lui, ils ont été tous les deux pendant une dizaine d'années à faire des photographies sur Angers. Alors très vite, ils ont fait à la fois des photos de monuments, donc on en a encore, hein. On a la chance d'avoir des très belles collections. Alors vous en avez aux archives municipales, ça s'appelle archives patrimoniales maintenant, au musée des Beaux-Arts, alors, malheureusement c'est dans les réserves, donc le commun des mortels ne peut pas les voir, c'est pas connu non plus, à la médiathèque Toussaint, où Marc-Édouard Gauthier, qui est un homme charmant et très érudit, m'a permis d'accéder à des fonds, à les voir, à les toucher, à les prendre en photo, etc., à les exploiter, si vous voulez, pour les mettre en valeur dans mon livre.
Oui, parce qu'il y a 210 illustrations dedans.
Oui, alors ça, c'est mon truc, moi. Parce qu'en fait, j'ai toujours écrit, hein, depuis tout jeune. Hein, ça ne m'est pas venu à la retraite, hein, comme certains, qui se disent on va s'inventer un poste. Moi, j'ai toujours écrit. Par contre, depuis que je suis à la retraite, j'ai plus de temps, forcément. Hein. Et donc, je recherche beaucoup d'illustrations, d'images, parce que je pense qu'un livre aujourd'hui, pour intéresser le public jeune surtout, mais je me suis rendu compte aussi que ça plaisait aux personnes très âgées, je pense qu'il faut des illustrations, et des illustrations d'époque. Donc là, dans mon livre, on voit le matériel, si vous voulez, on voit des caricatures, on se moquait du daguerreotypiste, on se moquait aussi des personnes qui prenaient la pose, parce que c'était, comme je vous l'ai dit, toutes crispées, etc.
Pas naturel.
Et on voit des photos d'Angers, surtout. On voit la cathédrale, on voit le port, on voit des choses qui ont complètement disparu, qu'un jeune angevin n'ose même pas imaginer, si vous voulez. Les quais de Ligny, par exemple, c'était des immeubles magnifiques qui ont disparu. En face, l'hôpital. L'hôpital, là, c'était quasiment des marécages par là. Hein. De l'autre côté du pont de Verdun, sur la Doutre, il y avait un canal avec des tanneries. Ça sentait mauvais, parce que, vous savez, pour tanner les peaux, c'était horrible. C'était des bougles. Par là, il y avait des loupards qui habitaient là. Les vrais angevins n'allaient pas se promener là-bas, si vous voulez. Donc, tout ça, on le retrouve dans des vieilles photos, dans quelques vieilles photos hein, qui ont échappé à la destruction. Et c'est un véritable, comme vous le disiez tout à l'heure, la photographie donc, a apporté par là quelque chose qu'aucun autre art, si vous voulez, n'avait apporté. Parce que les peintres ne prenaient pas ces lieux-là. Ils prenaient la mairie, le jardin du bail, mais ils n'allaient pas prendre le canal de la tannerie ou un marécage, si vous voulez. Voilà. Donc, effectivement, on a des très belles épreuves photographiques, très anciennes, à Angers. Et d'ailleurs, je pense qu'en 2022, si le Covid se calme un petit peu, on devrait avoir une exposition au Musée des Beaux-Arts sur la photographie, où je participerai, évidemment, pour emmener mon travail. Et là, ça pourrait permettre de montrer aux Angevins tout ce qui existe, à la fois dans les domaines publics que j'ai beaucoup explorés, mais peut-être aussi dans les collectionneurs privés, qui sont quand même des gens assez secrets, je m'en suis rendu compte, mais qui là, peut-être, pourront prêter quelques-unes de leurs belles photographies.
Et donc, ce travail, il vous a pris combien de temps? C'est quoi son point de départ?
Moi, je mets un an pour faire un livre.
Vous vous chronométrez et vous dites « ça y est, j'ai un an ».
Non, disons que c'est... en moyenne, ça met un an.
C'est votre rythme de croisière.
C'est le rythme de croisière, oui, voilà. Donc, ça commence par une idée. Voilà. Donc là, l'idée... si vous voulez, quand on a fini un livre, on est un peu désespéré. Alors, on est très content, parce que quand l'imprimeur me donne mes livres, si vous voulez, je suis...
Avoir l'objet en main,
voilà,
etc.
Moi, j'ai eu des enfants, c'est presque pareil, si vous voulez. C'est formidable, quoi, c'est bon. Puis après, c'est un peu le désarroi. On dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines de recherche, et hop, l'idée jaillit. Ça y est, je vais travailler.
Donc l'idée est vraiment venue comme ça, c'est pas au détour d'une archi?
Non, ou... ça peut venir le matin en me réveillant. J'ai rêvé d'un truc, je me dis, tiens. Non, c'est comme ça, vient comme ça. Voilà. Le prochain, ça va être sur le chemin de fer. N'allez pas me demander pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et puis après, il faut faire les recherches. Donc les recherches historiques. Alors là, c'est dans toutes les archives. Nationale, départementale. Par exemple, pour le chemin de fer, il a fallu que j'aille à Roubaix, aux archives nationales à Roubaix et aux archives nationales de Paris, pour trouver les documents complémentaires. Vous voyez. Donc, alors ça, c'est le document, la recherche documentaire. Donc, je mets tout ça sur mon micro, donc je suis très organisé. C'est peut-être mes études techniques qui font ça, si vous voulez.
Le côté ingénieur.
Peut-être, oui. Donc, je classe tout ça par thème, par année. Et puis, quand ça commence à être bien, bien riche, je vois le plan du livre qui arrive. Une bonne idée du plan. Voilà. Et là, je commence à écrire directement sur le micro, sans brouillon, sans papier, sans rien. Et le livre se construit. Ça amuse toujours mes enfants, parce que ils voient le livre se construire au fur et à mesure, si vous voulez. Quand le chapitre 2 commence, le chapitre 1 est fini. Hein? Il est vraiment fini. De temps en temps, il y a des petites retouches, mais voilà. Et donc, je mets les photographies dedans. Alors là, j'ai un logiciel de traitement de photos qui s'appelle Photoshop. Et mon fils, qui est pas mal doué à l'informatique, qui m'a appris à m'en servir. Et donc, je me débrouille tout seul. Je scanne, je nettoie, comme on dit, les photos. Je les recode, je mets un fond, etc. Et donc, ça arrive à faire des photos assez belles, là, j'ose le dire quand même. Puis les gens qui achètent mes livres, ils me disent qu'ils sont contents. Alors, je pense qu'ils ont quelque part, ils ont raison. Et donc, ça permet, à chaque page, ça permet d'avoir des photos qui illustre bien le livre et qui plaise parce que ça fait un livre aéré. Et il y a beaucoup de photographies d'époque.
On évite les gros blocs de texte.
Ouais, j'aime pas ça. Ouais, c'est un peu rébarbatif, en fait. Voilà, et donc le livre se construit comme ça. Et puis, ben, au bout d'un an, je fais un premier tirage. Et j'ai deux ou trois relecteurs préférés qui traquent les fautes. Alors, pas forcément les fautes d'orthographe, parce qu'avec les logiciels de traitement de texte aujourd'hui...
Ne serait-ce que les coquilles ou la syntaxe.
Ouais, oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, ouais, ouais. Ou des mots répétés sur les trucs comme ça. Pas se faire taper dessus comme à l'école, par la maîtresse. Et donc, à peu près au bout d'un an, ben, le bouquin est prêt. Donc, j'appelle mon journaliste bien-aimé, là, qui me fait des articles superbes. Je trouve qu'ils sont vraiment chouettes, ces articles. Donc, il vient à la maison et puis on discute. Alors, je lui donne un livre. Comme ça, ça lui permet de mieux comprendre. Et puis, il fait son article. Puis, je me mets toujours en scène. Vous voyez, là, je suis mis en scène avec un appareil photo. Bon, j'ai écrit un livre. Le dernier livre que j'avais écrit, c'était sur les fous de la vitesse.
Sur les champions automobiles.
Donc, évidemment, là, j'avais un casque de pilote avec les lunettes de course, quoi, forcément. J'en ai écrit un autre sur la guerre de 14. Alors, j'avais laissé pousser la moustache par une grosse moustache de poilu avec le casque. Voilà. Là, j'aime bien.
À chaque fois, vous mettez dans le personnage.
Ouais, ça fait rigoler les gens.
Le lien entre vos travaux, donc vous avez écrit aussi sur les télécommunications, oui. Par exemple, en Pays de la Loire.
Oui.
Les champions de course automobile originaires d'Angers. Oui. Là, la photographie Angers.
Oui.
Le lien entre vos travaux, c'est Angers ou du moins l'Anjou. Pourquoi cet attachement au territoire?
Alors, ce n'est pas uniquement Angers. J'ai fait aussi des biographies de personnes connues au niveau des Parisiens ou des Rouennais, etc. Mais Angers, ça me plaît bien. Donc, j'y reviens sans arrêt. C'est un peu comme un... j'essaye de m'en éloigner et pof, j'y reviens parce que c'est chez nous, quoi. C'est chez moi. Moi, j'ai déménagé 12 fois dans ma vie. Donc, j'étais partout. Donc, j'avais pas de famille, j'avais pas de... des fois, il y a des gens qui disent... On a une maison d'enfance, on aime bien y retourner, tout ça. Je suis de l'Aveyron, c'est un pays. Non, moi, je n'avais pas de pays, en fait. Je n'avais pas de maison d'enfance. Et puis un jour, par hasard, avec mon épouse, on a posé nos valises à Angers pour un poste que j'ai tenu 4-5 ans, parce que j'étais cadre dirigeant, donc tous les 4-5 ans, il fallait s'en aller. Et puis la ville nous a plu. Les Angevins nous ont plu aussi, si vous voulez. Ça, quand on... bouge beaucoup, on est très sensible à ça. On se rend compte qu'il y a des villes où on n'est pas très bien accueilli, si vous voulez, et d'autres où on est bien accueilli. C'est curieux, ça se sent, ça. Et à Angers, on était très bien accueillis. Et puis, ma femme s'est fait plein de copines aussi. C'est pas facile pour une femme de déménager sans arrêt, parce qu'elle travaillait pas, mon épouse, donc de se faire des connaissances. Et à Angers, elle fait beaucoup de connaissances. Et donc, on s'est dit, on achète une maison. Et puis quand ce sera la retraite, on viendra prendre notre retraite à Angers, voilà. Et donc je dois bien à Angers d'écrire un peu sur l'histoire d'Angers.
Vous rendez la monnaie.
Oui.
Et ben merci beaucoup Frédéric pour ce voyage dans le temps. Si vous voulez poursuivre l'aventure, vous pouvez vous procurer le livre Angers et la photographie pour 20 €. C'est un livre qui est auto-édité. Comment est-ce qu'on peut se le procurer du coup?
Je fais ça à la maison. Hein, donc, dans le journal, il y a mon numéro de téléphone. Hein, moi, je peux le redonner là, ici. Hein,
c'est pas allez-y pour les personnes intéressées.
C'est 06 07 25 05 14. Je ne donne pas mon mail parce que là, je pense que moi, je suis un homme de contact, donc j'aime mieux qu'on m'appelle. Puis après, les gens viennent chez moi. Ça fait aussi partie d'un certain intérêt. Alors, j'en vends pas énormément des livres. Hein. Mais là n'est pas le problème parce que je ne fais pas de bénéfice sur les ventes. Alors, je pourrais en vendre 5 000, je ne ferais pas un sou de plus. Mais en fait, quand les gens viennent chez moi, si vous voulez, ça permet de discuter, de rencontrer des gens, de discuter. Et ça, c'est du lien social que j'ai réussi à conserver malgré le Covid, vous voyez. Donc ça, c'est quand même sympa. Hein, voilà. Et en ce moment, il y en a qui m'amènent des vieilles photographies d'Angers. J'avais ça dans le grenier, je vais aller chercher pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça permet aussi d'identifier aussi des vieilles photos, puis de les remettre un peu dans le circuit. Alors, pas pour moi, parce que moi, je ne suis pas collectionneur, ça ne m'intéresse pas. Mais de dire aux gens, bah, éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez les vendre aux archives départementales ou à la médiathèque, tout ça. Voilà.
Ou pour la potentielle exposition photographique de 2022.
Voilà, voilà. Pour être honnête, hein, je tire à peu près 50 exemplaires, pas plus. Hein, parce que le livre aujourd'hui, c'est compliqué. Hein, je sais que les jeunes, ils sont passionnés par tout ce qui est sur écran. Hein, donc on m'a déjà demandé de mettre mes livres sur écran, mais je trouve que c'est pas pareil. Moi, je préfère...
L'objet.
L'objet, puis rencontrer les gens, quitte à en vendre peu. Mais c'est, je préfère cela, vous voyez.
Vous êtes un auteur local de proximité.
Oui.
Et ben merci beaucoup d'être passé sur notre antenne.
Je vous en prie.
Les Radio Campus présentent Ben Caddy, le premier album de Practica.
Thank you.
Voilà, à l'instant, c'était Practica avec le titre Chapalo. C'est un feat avec Cheikh Sissoko. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Ce soir, vous retrouvez Electric Troubles et le 3615 Chill Out. On se retrouve demain. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus. Portez-vous bien.